Chapitre 63. Saga débarrasse la table de Karl Speller afin de faire de la place pour son ordinateur et le disque dur. « Je peux t'emprunter ton portable pour passer un coup de fil ?»«
Le code est 915-837 »,
dit-il avant de le lui tendre. Karl quitte la pièce pour aller prendre une douche et Saga s'assied sur l'accoudoir du fauteuil. Elle compose le numéro privé de Randy.
« Allô ? Tu peux parler ?»
demande-t-elle à voix basse.
« Saga ? Qu'est-ce qui se passe ?»«
Je n'ai pas fait ce qu'ils disent.
Ne me raconte pas ça à moi, » dit-il.
« Je le sais déjà. Tu dois te rendre avant que... Alors on ne mettra jamais la main sur l'araignée. »
l'interrompt-elle.
« Ce n'est pas ta responsabilité. Tu n'es même plus policière. »
Saga regarde l'étagère encombrée de Karl, où sont posées sa console de jeu, une pipe à eau, une bougie en forme de statue de la liberté et un clown dufteux en habit de soie jaune et rouge dans sa boîte.
« Ils ont découvert quelque chose d'important ?»
demande-t-elle.
« Non, je crois pas. Pas de nouvelles figurines en étain ?»«
Non, » répond-il. Des sachets de chips vides, des emballages de bonbons, des jetons et des vinyles des années 1980 sont éparpillés sur le sol.
Le groupe d'intervention a pris d'assaut mon appartement,
explique-t-elle. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont parlé d'un mandat de perquisition avec des fusils d'assaut, des tireurs d'élite, des grenades assourdissantes.
C'est complètement fou, murmure Randy. Je ne comprends vraiment pas.
Tu m'as dit que t'avais besoin d'un endroit pour te cacher.
Peut-être que je peux...
Non. Je ne veux pas que tu sois impliqué plus que tu ne l'es déjà.
Mais maintenant, je m'en fous.
Si je meurs,
je veux que tu saches que tu as été l'amour de ma vie,
dit-elle. Et elle raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Saga reprend son souffle, essuie quelques larmes sur ses joues, puis s'assied sur le canapé devant l'ordinateur et commence à regarder les dernières séances de Kranz avec Mara Makarov. Bien que les conversations s'étalent sur plus d'un an, la patiente reste cohérente jusque dans les moindres détails. Karl Speller revient, les cheveux ébouriffés et une serviette sur une épaule. Il déplace une grande pile de journaux, s'assied dans le fauteuil à côté de Saga et regarde avec elle les séances de thérapie. Mara Makarov a posé près d'elle un livre sur le levier d'Archimède. Ses cheveux sont coiffés et brillants, son visage est posé et son regard vif. D'une voix calme, elle explique qu'elle doit sortir afin de sauver sa famille. Sven Ove lui répond qu'elle a fait de grands progrès, que ses doses de médicaments ont été réduites et qu'il va demander à son collègue de la libérer à l'automne. Mara parle sans cesse de Saga Bauer, demande au psychologue s'il a de ses nouvelles, si le meurtrier a été arrêté.
« Je n'ai reçu aucune réponse, »
répond-il.
« C'est étrange, »
murmure-t-elle. 6 mois plus tard, Mara arpente la pièce comme un animal pris au piège qui n'accepte pas la reddition. Elle a un comportement presque catatonique et marmonne fiévreusement des mots en russe. Il est clair qu'elle ne supporte plus d'attendre que sa demande de sortie en ambulatoire soit entendue. Dès que le psychologue essaie de dire quelque chose, elle l'interrompt et crie
« Idi, Vemoja, Veyave ! Idi, Vemoja, Veyave !»
Encore et encore avant de se taire et de recommencer à tourner en rond. Il s'écoule presque 15 mois jusqu'à la séance suivante. Elle a encore changé. Elle est maintenant silencieuse et ses mouvements sont lents. « Comment tu imagines l'avenir ?» demande Sven Ove à la fin du dernier enregistrement.
« Le mien ?»«
Oui. »«
J'en ai un. »
Essaie de formuler ta vision de l'avenir en une phrase au moins.
« J'ai vu une petite ferme une fois. À l'extérieur. » « De Vesteraninck, »
dit Mara. Puis, elle s'enferme un moment dans ses pensées, avant de poursuivre.
« J'imagine que je suis là-bas avec ma famille. C'est une journée d'été sèche. Les champs fument à cause de la chaleur. L'herbe est jaune. Les feuilles des arbres se sont enroulées sur elles-mêmes. Je suis assise sur une chaise, à l'ombre, près d'un tracteur. Je mange une brioche à la cannelle dans du papier sulfurisé. Et je regarde les enfants de Vadim et d'Aglaïa jouer au croquet. C'est comme ça que j'imagine ma mort. À la fin de la dernière session, Saga referme son ordinateur et regarde Karl qui est assis, les bras croisés. « Voilà, » dit-elle. « Intéressant, » commente-t-il en se levant. Tandis que Saga lit les dernières notes dans le journal de bord de Sven Ove Krantz, elle entend Karl changer les draps de son lit. Le psychologue écrit qu'il estime que la thérapie est terminée et que l'histoire de vie de la patiente est maintenant en adéquation avec l'image qu'elle a d'elle-même. Il note ensuite que lors de chaque réunion hebdomadaire, il répétera au médecin-chef que Mara Makarov doit sortir de l'hôpital. Saga se lève au moment où Karl entre avec ses vieux draps sous le bras pour les étaler sur le canapé. Elle regarde l'article encadré sur Jurek Walter tiré de l'édition confisquée et se dit que Karl avait raison sur la plupart des points, même si dans la réalité, le meurtrier était bien pire que ce qu'il avait imaginé. « Je peux prendre une douche ?» demande-t-elle. « Il y a des serviettes propres dans l'armoire juste à côté. » Saga entre dans la salle de bain, ferme la porte et constate qu'il n'y a plus de verrou. Elle suspend à un crochet une serviette de bain du grand hôtel d'Oslo. Tapis de douche bleu clair et couvert de mousse. Des rasoirs en plastique jaune gisent sur le rebord du lavabo et les toilettes n'ont pas de couvercle. De la moisissure noire a grimpé sur près d'un mètre dans l'angle près de la machine à laver. Saga vérifie qu'il n'y a pas de caméra dissimulée avant de se déshabiller et d'entrer dans la douche. Le mitigeur s'est détaché du mur et a été réparé avec du fil de fer. Elle tourne doucement le robinet et attend quelques instants avant de se placer sous le jet d'eau chaude. Le rideau de douche tremble sous l'effet du grondement des canalisations. Saga se lave les cheveux avec du gel douche, tout en repensant aux paroles de Sven Ove Krantz au sujet de l'adéquation entre Mara et son histoire. C'est finalement le psychologue qui a changé le plus au fil des séances. Il a traité sa patiente comme si elle disait la vérité et a progressivement commencé à croire à la véracité de son histoire. Saga sort pour se sécher et constate qu'une grande flaque d'eau savonneuse s'est accumulée sur le sol sous la machine à laver. Elle remet ses vêtements, sort de la salle de bain et sent une forte odeur de bacon frit. Le bar est cerné d'un nuage de fumée. La chaîne stéréo diffuse de la pop des années 1980. Karl a dressé la table sur le comptoir et a sorti un pichet d'eau. « Tu n'avais pas besoin de cuisiner. »« Bah, » sourit-il. « Même si j'ai faim. » ajoute-t-elle. Il retire la poêle de la cuisinière et la pose sur le comptoir du bar sur un dessous de plat en liège. J'ai d'autres couverts, mais j'ai appris que ce plat devait être mangé avec une cuillère, explique-t-il. Une cuillère, c'est bien. Bon appétit, sourit-il en faisant gicler du ketchup dans son assiette. Soit elle a très faim, soit la combinaison entre les macaronis, les poireaux et le bacon frit fonctionne étonnamment bien. Pendant qu'il mange, Karl parle du fait que le journalisme se résume désormais à écrire ce sur quoi les lecteurs sont censés cliquer pour augmenter les recettes publicitaires. « Mais ce qui me préoccupe vraiment, c'est la déresponsabilisation des journalistes. Ils n'expriment plus leurs propres opinions, mais celles de ceux pour qui ils travaillent », explique-t-il en s'essuyant la bouche. « Tu le penses vraiment ?» marmonne-t-elle en se resservant. « Non, mais je suis amer et ça fait du bien de se plaindre parfois, » dit-il en souriant et en dévoilant ses canines pointues. « Tu viens d'Afrique du Sud ?» demande-t-elle en montrant le drapeau accroché au mur. « Ma mère et moi avons déménagé ici quand j'avais 15 ans, mais j'ai gardé le nom de famille de mon père, Speller, qui signifie « jouer » en afrikaans. Mais tu parlais déjà le suédois?
Ma mère est originaire du Småland.
C'était comment de déménager ici?
Agréable, calme, froid. En Afrique du Sud, j'étais dans une école privée. Ici, j'ai terminé le lycée en un an. J'ai eu les meilleurs résultats. Je suis entré à l'école de journalisme. Et voilà ce que je suis devenu.
Elle pose son verre d'eau sur le comptoir et regarde la lumière se réfracter à travers la surface oscillante. Il y a un problème d'évacuation dans la douche, dit-elle.
Le sol est mal incliné, répond-il. Le mélangeur est cassé, le lavabo est fissuré. C'est peut-être pas l'endroit à rêver, mais qu'est-ce que tu veux? Il est en accord avec mon parcours et ma carrière.
Tu n'as juste pas eu de chance.
Ce que confirme cet appartement, il a la malchance de se situer loin de tout. De sentir le renfermé et d'être mal isolé. J'entends quand les propriétaires font l'amour là-haut. Ce qui est sans doute un plus. J'ai pas de fenêtre, pas de serrure, pas de hotte de cuisine, pas de brioche à la cannelle sur du papier sulfurisé.
Je dois y aller.
L'interrompt Saga en bondissant soudain de sa chaise.
Je suis désolé, je dois juste vérifier une chose.
Dit-elle rapidement en s'essuyant la bouche avec un morceau d'essuie-tout.
Ses paroles sur la brioche à la cannelle l'ont frappée avec une précision cristalline.
Je peux venir avec toi ? Demande Karl.
Si tu as une voiture,
répond-elle en enfilant son holster.
J'ai l'air de quelqu'un qui possède une voiture.
Tu as vu ta montre ?
Dit-elle en enfilant ses chaussures.
Quand j'ai eu 18 ans, mon père voulait m'offrir sa Rolex, mais je l'ai pas prise, j'étais trop fier. Alors je me suis acheté celle-ci aux enchères pour mes 50 ans.
Je reviens dans quelques heures.
Tu vas où?
À Westerhaning. Il attrape rapidement sa veste et la suit à travers le musée. L'étagère où se trouvent les pantoufles ensanglantées de Saga tremble au rythme de leurs pas.
Tu crois que Mara vit là-bas à cause de ce qu'elle a dit à propos de sa propre mort?
Demande-t-il. Elle a besoin d'un endroit spacieux et isolé pour manipuler de grandes quantités de produits chimiques.
Je vais nous trouver une voiture,
dit-il. Combien de temps ça va te prendre?
30 secondes.